Bonjour Johan Chanoir.
Bonjour Jérôme.
Alors, nous sommes ici en studio avec donc Damien Demey qui m'accompagne.
Bonjour.
Bonjour Damien.
Et donc avec lequel on va échanger. Enfin donc on va échanger tous les trois autour de la thématique de cette émission qui est consacrée aux liens entretenus par la communauté juive avec le cinéma. Alors aussi bien effectivement à travers par exemple l'épopée d'une firme comme la Canon, mais aussi à travers la manière dont sont représentés les juifs à l'écran, la manière dont ils sont traités, et en particulier là on s'est articulé autour de plusieurs films. Mais avant, moi je voudrais, Johan, que tu nous expliques ce qui a motivé l'écriture de ton travail La Shoah sur grand écran, entre représentation et trivialisation, qui est donc paru dans la revue Historien et Géographe en 2022, numéro 458-459, si je ne m'abuse.
Alors, tout à fait. Donc au départ, c'est d'abord un souci pédagogique, puisque c'est un objet d'étude qui relève des programmes de spécialité en histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, qui a été une création de la réforme du lycée. Et donc parmi les nombreux objets d'étude, il y a en fait la Shoah dans la culture populaire, dans la littérature, dans le cinéma, et également un peu dans les séries télévisées. Donc moi, mon rôle en tant que rédacteur en chef, c'est de proposer à des collègues qui n'ont pas forcément les connaissances ou les compétences pour lire une image cinématographique, les connaissances sur la Shoah qui n'est pas très souvent enseignée à l'université, donc de leur apporter un ensemble de connaissances, des exemples très très pratiques de mise en situation en classe avec nos élèves, afin de leur fournir un peu une base documentaire dans laquelle ils peuvent puiser.
Alors nous, on va travailler là à partir justement, tu parlais d'une base documentaire, on va commencer cette promenade, cette étude, cette recension à travers un premier film qui est un documentaire un peu particulier. Il s'appelle Baby Art Context, c'est réalisé par Sergueï Lonitsa, qui est un réalisateur ukrainien, qui a eu le prix spécial du jury de l'Œil d'Or au Festival de Cannes en 2021, et qui est un documentaire qui fait un choix. Au départ, le réalisateur voulait faire une fiction, il faut le savoir, et puis le Covid est arrivé, ça l'a empêché de réaliser cette fiction, mais il est en très bon terme avec le directeur du mémorial de Baby Art, le Baby Art, c'est là où en 1941, des juifs de Kiev ont été massacrés de manière absolument ignoble, et le réalisateur s'est dit, en fin de compte, puisque je ne peux pas faire de fiction en raison du Covid, je vais travailler à partir des images d'archives qu'il y a au mémorial, et je vais construire un film qui raconte donc la chose suivante. Ça démarre le 28 septembre 1941, quand les juifs de l'agglomération de Kiev reçoivent l'ordre de se présenter au lieu dit Baby Art, donc avec papier d'identité, argent, objets précieux et quelques vêtements. Et bien évidemment, ceux qui ne se présentent pas à ce rendez-vous sont menacés d'être exécutés. Pensant qu'ils allaient être déportés, envoyés en camp de travail, ils obtempèrent, mais en fait ils sont tous conduits par petits groupes au bord d'un ravin. Alors 33 771 hommes, femmes, vieillards et enfants, donc ils sont exécutés à l'arme à feu en 36 heures par des unités de la SS, de la Wehrmacht et de la police auxiliaire ukrainienne. Et à la libération, l'Ukraine retombe dans le giron de Staline, et les soviétiques vont occulter la nature spécifiquement antisémite de ce massacre qui aurait, selon eux, visé des citoyens soviétiques pacifiques. Et même en 1952, ils vont combler le ravin comme pour effacer cette verrue de l'histoire. Moi, je me pose la question. Alors, le documentaire est très fort. En plus, il fait le choix, le documentaire, de ne pas mettre de commentaires, mais on en reparlera. C'est uniquement les images qui s'enchaînent, jusqu'aux images du procès, qui sont aussi très impressionnantes. Certaines sont resonorisées. Il a refait les dialogues par-dessus. Il a post-synchronisé. Il a été obligé, parce que c'était difficilement audible. Mais il a quasiment rien retouché. Et pourquoi, c'est la question qu'on peut se poser, pourquoi toi en tant qu'historien, tu expliques, comment tu expliques le fait que l'URSS, à l'époque c'était l'URSS, décide d'effacer cette partie de l'histoire, puisque après tout, ils n'avaient pas forcément le mauvais rôle dans cette histoire. Voilà. Donc c'est assez étonnant.
Alors oui et non, en fait, oui, ça nous étonne aujourd'hui, parce que la mémoire de la Shoah, l'extermination des Juifs et les Tziganes a pris beaucoup plus d'importance et de résonance dans nos sociétés, mais en fait c'est très classique dès 1945, en fait, aussi bien à l'Est, donc en Union soviétique, qu'à l'Ouest, par exemple aux États-Unis, c'est-à-dire qu'en fait on va nier un peu la spécificité de l'extermination de masse. Alors il y a beaucoup d'articles, beaucoup de films. Bon, je me souviens par exemple d'un film, je crois, tchécoslovaque, où en fait on voit une étoile de David, donc qui représente, qui est posée sur la tombe d'un mort dans un centre d'extermination, dans un camp de concentration d'ailleurs. Et puis après, en fait, la caméra, fait un plan plus large, et en fait, l'étoile de David se transforme en croix et on voit des centaines de croix. C'est-à-dire qu'en fait, on passe la Shoah soit sous la croix, donc c'est-à-dire qu'on retire un peu le caractère spécifique de la Shoah, c'est-à-dire l'extermination des Juifs, pour en fait la lisser en quelque sorte et montrer que c'est une extermination de masse, mais qui concerne tout le monde et qu'en fait, les Juifs sont des victimes parmi tous les autres. Et en Union soviétique, c'est un peu la même chose. On insiste davantage sur, comme tu l'as dit, le massacre, parce qu'il y a eu des massacres de civils absolument incroyables, le massacre des prisonniers de guerre soviétique en Allemagne, dans d'autres camps. Et donc, en fait, plutôt que d'insister sur, le massacre des Juifs, on insiste sur l'extermination des citoyens soviétiques, sans oublier un antisémitisme latent, en quelque sorte, implicite en Union soviétique. On se souvient que un peu avant de mourir, Staline va lancer ce qu'on appelle le complot des blouses blanches, contre des médecins, des scientifiques juifs qui clampoteraient contre l'Union soviétique. On est en pleine guerre froide, mais heureusement, à la mort de Staline met fin à cette tentative de nouveau d'ostraciser les Juifs en Union soviétique. Donc c'est un procédé très classique du point de vue cinématographique, c'est-à-dire que ça va à peu près durer, on va dire, jusqu'au choc du procès Eichmann, là, qui va réveiller un peu les mémoires juives, qui sont un peu assoupies parce que bon, il y a le traumatisme, il y a la volonté de passer à autre chose, etc. Et puis s'ils sont inaudibles, Simone Veil l'a souvent répété au départ, l'expérience de l'extermination de masse, les personnes ne comprennent pas pourquoi. On voit un peu tout dans camps de concentration, centres de mise à mort industriels. Et d'ailleurs, il y a un documentaire français très, très célèbre, Nuit brouillard, où en fait on confond camps de concentration et centres de mise à mort industriels. Donc en fait, c'est un procédé très classique qui nous choque aujourd'hui parce qu'on sait plus de choses, on sait mieux sur les choses, mais en fait, c'est à l'œuvre dès 1945.
Alors, Johann Chanoir, tu évoquais à l'instant Nuit et brouillard d'Alain René, et c'est vraiment ce film-là, Babillard Contexte, donc qui a pour but de restituer le contexte dans lequel s'est déroulé ce massacre, est un film, pour moi, c'est le film qui m'a le plus impressionné, en fait, sur la Shoah, avec le film d'Alain René, qui demeure quand même un film absolument tétanisant.
Oui, alors il parle... Il parle effectivement de la Shoah, mais bon, c'est pas non plus, c'est pas pour moi le film le plus émouvant. Je crois que le film le plus émouvant, il reste toujours à filmer, parce qu'on peut aller toujours plus loin dans la représentation. Et par exemple, le fils de Saul a été une étape formidable. Et en fait, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait de la Shoah au cinéma? Est-ce qu'on la trivialise? C'est-à-dire, est-ce qu'on prend des images choc de la Shoah, comme par exemple l'empilement des chaussures? On le retrouve par exemple dans Le labyrinthe de Pan, qui ne parle pas de la Shoah, parce que ça parle de la guerre d'Espagne. À un moment donné, il y a une scène, il y a une image très 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 forte, où tout le monde comprend que ça fait référence à la Shoah. On le retrouve par exemple dans Terminator, et dans une série dérivée... En anglais, c'est les chroniques de Sarah Connor. Il y a une allusion au camp d'extermination, de Skynet, etc. Donc ça, c'est la première option, c'est la trivialisation de la Shoah. La deuxième option, c'est on essaye en fait de la rendre un peu plus acceptable. Donc là, c'est par exemple la comédie, j'ai oublié le titre, italienne, qui est assez amusante d'ailleurs, mais qui a choqué beaucoup parce qu'il y en a qui comptent tous à la Shoah. Et je rappelle, par exemple, hein, que les gens de la Nouvelle Vague, comme François Truffaut, à qui un jour on avait commandé d'écrire et de faire un film sur le dernier train français qui transporte des déportés juifs vers les centres de mise à mort, il a refusé parce qu'il dit on ne peut pas filmer la Shoah, on ne peut pas donner à un acteur de qui pèse 80 kilos, bien portant, etc., le rôle d'un déporté parce qu'il y aurait un réalisme qui serait brisé. Donc en fait, la question de la représentation de la Shoah, elle a beaucoup travaillé les réalisateurs, elle les travaille encore, et puis il y a, comme tu disais, pour finir, hein, l'option du documentaire, c'est-à-dire le documentaire, l'image est brute, mais c'est oublier une réalité fondamentale du cinéma, c'est que le film documentaire ou le film de fiction, en fait, n'ont aucune différence, au sens où c'est le montage hein, qui est l'opération fondamentale de ce cinéma, comme il l'est dans le cinéma de fiction. Et donc, je trouve que c'est, comment dire, c'est vraiment un cas, entre guillemets, bien sûr, un cas d'école hein, pour le cinéma, c'est comment on représente l'indicible. Parce qu'il y a aussi autre chose qu'il faut ajouter, et c'est justement la performance de ce film d'Abillard Contexte, c'est qu'on n'a pas, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas d'image filmée de la Shoah. C'est-à-dire que les nazis avaient interdit de filmer, on a quelques photographies très très rares, on a une photographie de la sélection des juifs hongrois par exemple, avec le médecin SS sur la rampe, on a trois ou quatre photographies je crois d'Auschwitz pris par des résistants, mais on n'a pas d'image filmée de la Shoah, donc il y a déjà une sorte d'apourri en quelque sorte, c'est comment filmer quelque chose dont on n'a pas de traces, comment dire, filmiques. Et ça, je crois que c'est ce sur quoi butent les différents réalisateurs depuis 1945, hein, et sur quoi ils travaillent. On se souvient par exemple Hitchcock, hein, dans un film qui n'a strictement rien à voir en apparence, c'est Monsieur Landru, à un moment donné, il filme une sorte de four crématoire, et tout le monde comprend, on est après 1945, hein, qu'il évoque la Shoah. Donc en fait, c'est quelque chose qui travaille le cinéma depuis 1945, et je pense qu'on n'a pas encore trouvé tout épuisé dans les moyens de représenter et d'être ému par un film.
Alors, le film dont tu parlais, italien, c'est La vie est belle de Roberto oui. Benigni. Voilà.
Tout à fait.
Alors, il y a quelque chose aussi, moi, dans ce documentaire, donc Babillard Contexte, qui est disponible chez Blackout, là, de Sergueï Ilonidze, il y a un côté fascinant, enfin, ce qui est fascinant et très triste à la fois, c'est de voir les foules, alors qui sont très très enthousiastes et qui collent des portraits d'Hitler dans les rues parce qu'ils en ont marre d'être sous le joug des Polonais en fait, et puis quasi dans la foulée historique, ça va historiquement ça va très vite hein, les événements là ça va très vite, ils collent après des portraits de Staline partout dès lors que les soviétiques débarquent pour les entre guillemets délivrer du joug nazi. Ça donne l'impression, en fait, c'est ça qui est assez effrayant, de voir un peuple qui passe d'une oppression à une autre et qui l'accueille à bras ouverts.
Alors, tout à fait. Alors, ça, ce sont des choses tout à fait, réelles, hein, parce que bon, les premières unités allemandes, donc je parle des unités militaires de la Wehrmacht, ont été accueillies en Ukraine avec le pain et le sel hein, et en liesse hein, par les populations ravies de se débarrasser de la tutelle soviétique. Il faut rappeler qu'il y a une histoire, il y a un passé, voire un passif hein, entre l'Ukraine et la Russie, sans parler des événements contemporains. Mais il y a eu la grande famine hein, qui fait plus de morts d'ailleurs que la Shoah. Hein. On n'a pas de bilan officiel, mais c'est absolument considérable, épouvantable. Et donc, il y a voir arriver les Allemands, pour eux, c'est une phase inespérée. On se libère de la tutelle soviétique. Et malheureusement, après la Wehrmacht, même si la Wehrmacht n'est pas innocente des crimes hein, de masse, on le sait aujourd'hui de manière très bien documentée, vont arriver les unités SS, les Einsatzgruppen, etc. Là, les Ukrainiens vont découvrir qu'ils sont passés d'une domination sanglante à une autre domination sanglante. Je sais pas, tu te souviens aussi peut-être du film de la liste de Schindler, hein, où on voit à un moment donné des Polonais cracher, jeter des cailloux, me semble-t-il, hein, sur un convoi de déportés juifs. Donc il existe un antisémitisme en Europe, hein, en Union soviétique, en Pologne, etc., en Ukraine. D'ailleurs, l'Ukraine, c'est très intéressant d'évoquer Babillard, parce que Babillard, ça fait partie en fait d'un autre contexte beaucoup plus large qu'on appelle la Shoah par balle. En fait, les Allemands ont, à partir du moment où ils ont pris la décision de se débarrasser d'exterminer les juifs, ils ont tâtonné pour trouver la solution. Et la dernière étape sera bien sûr la solution finale. Mais avant la solution finale, il y a l'étape de babillard, ce qu'on appelle la Shoah par balle. Hein. C'est 1,5 million de juifs massacrés, etc. Et donc, babillard, c'est 33 000, hein, mais on estime qu'à babillard, jusqu'en 1943, il y a eu environ 100 000 victimes. Et la Shoah par balle, hein, c'est 1,5 million de personnes hein, qui ont été fusillées, mis dans des fosses communes, etc. Et puis, un convoi arrive, les camions arrivent, on tue de nouveau, on déshabille. Alors ce que tu as dit, c'est très intéressant aussi, parce que nos auditeurs n'ont peut-être pas conscience de ceci, c'est que, oui, comme tu l'as dit, on les emmène avec des valises, des affaires, de l'argent. Alors il ne faut pas oublier que le Troisième Reich, c'est une économie de la prédation, c'est-à-dire qu'on s'empare des valeurs précieuses que possèdent les Juifs que l'on va exterminer. Les Allemands, d'ailleurs, ont subi la France pendant l'occupation. Mais également, il n'y a pas assez de soldats pour les garder, en fait. Donc, on a toujours l'idée, la peur, la phobie d'une révolte, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que les gardiens qui sont mobilisés. Et donc, il faut faire une sorte de mise en scène, hein, entre guillemets, bien évidemment, pour les dissuader de faire une révolte. Donc, on leur demande de prendre une valise, on leur demande de prendre leurs affaires, leurs papiers, etc., de l'argent, hein, dans l'espoir, comme tu l'as si bien dit, ils vont être déportés, puis après, ils vont être dans un camp de travail, donc... Pour eux, c'est quelque chose qu'ils ont pu connaître, c'est quelque chose de, pas de familier, mais d'imaginable. Personne ne se doute qu'ils vont être exterminés de manière systématique par des soldats armés de mitrailleuses, et puis après, plus tard, dans les centres de mise à mort industriels. Et tu vois, il y a tout ce mécanisme hein, que permet de démonter ce documentaire, mais tout en ayant conscience hein, que c'est une étape avant l'étape ultime qui est la solution finale.
D'ailleurs, il y a quelque chose qui est bien mis en avant dans Babillard Contexte. Alors toi qui es historien, Johann Chanoir, tu vas peut-être pouvoir nous en dire plus, parce qu'on parle beaucoup des mouvements nationalistes ukrainiens, de l'OUN, l'organisation nationaliste ukrainienne, qui est créée en 1929 pour obtenir donc l'indépendance de l'Ukraine. Est-ce qu'aujourd'hui, je fais peut-être une erreur, moi je ne suis pas historien, mais est-ce qu'aujourd'hui, ces mouvements historiques, nationalistes, ne servent pas Poutine aussi pour bâtir sa rhétorique, pour justifier l'agression de l'Ukraine aujourd'hui ?
Alors, c'est tout à fait, de toute façon, c'est instrumentalisé. Alors, le fait qu'il évoque qu'il existe des néo-nazis en Ukraine, bon, il y a des néo-nazis malheureusement partout, en France, en Allemagne, on le sait, mais c'est surtout aussi, une évocation du rôle des Ukrainiens, de certains Ukrainiens, hein, dans l'état de la Shoah par balle. Et il y a une mission qui a été, une mission vraiment d'archéologie, de recherche, qui a été menée par Patrick Desbois, qui a travaillé sur la Shoah par balle, hein, qui a exhumé avec toute une équipe hein, plus de 500 fosses communes. Et donc, il a écrit un livre. Il y a une grande exposition mémoriale de la Shoah à Paris, extraordinaire, avec des photographies, des témoignages absolument bouleversants. Et à un moment donné, en fait, on s'aperçoit que les Juifs qui ont été exterminés, fusillés, en fait, leurs biens ont été récupérés par les populations ukrainiennes avoisinantes. Et donc, en fait, il y a un passif aussi entre certains Ukrainiens et les Juifs qui ont été massacrés. Et on dit, alors moi je ne peux pas le confirmer ni l'infirmer, mais ça revient constamment dans les discours russes, ça revient aussi chez certaines personnes qui ne veulent pas non plus. Pour pas défendre l'agression russe, parce qu'une agression est indéfendable, quels que soient les motifs, et qui disent que certaines personnes hein, en Ukraine qui ont participé à la Shoah par balle, hein, on dispose de noms de rues, dispose de statuts, donc ça serait, bon c'est pas mon domaine de recherche, hein, mais ça serait peut-être quelque chose à creuser pour justement comprendre comment la propagande de Poutine repose sur un élément réaliste en fait. Hein. On sait d'ailleurs que toute propagande repose sur quelque chose de vrai pour faire accepter du faux. Et c'est ce passif avec la Shoah par balle, peut-être cette évocation de figures nationalistes, comme tu disais, et aujourd'hui qui nous semble absolument incongrue, insupportable, existe réellement. Et donc ça donne un argument à Poutine pour développer tout son discours et justifier ce qui reste injustifiable, c'est-à-dire l'agression.
Le film Babillard Contexte a aussi quelque chose de particulier, c'est qu'il est composé essentiellement d'images d'archives sans voix, à part à la fin, lors du procès, on le retrouve. Et, comme vous, tu l'as évoqué, Johan, il y a quelque chose qui joue avec la thématique finalement de présence, c'est-à-dire qu'on a des, quand même des images d'archives, on a des témoignages et tout, mais aussi d'absence, vu qu'on n'a pas d'images filmées de ce qui s'est passé. La montagne de chaussures renvoie à, finalement, cette présence-absence, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens, ils ne sont plus. Ça me rappelle l'œuvre de Boltanski avec des vêtements qui s'appelle Personne, avec une gruse qui soulève des tonnes de vêtements et qui relâche. Et finalement, je me posais la question, est-ce que finalement le travail de l'historien, c'est de combler cette absence? Au final, doit-il ou pas la combler, cette absence d'information?
Alors oui, tout à fait. C'est la difficulté, hein. C'est vraiment la grande difficulté de disposer, de combler un peu ces vides narratifs en quelque sorte et ces vides iconographiques. Parce qu'il faut aussi bien prendre conscience que c'est une stratégie délibérée du nazisme d'effacer les traces. Babillard, par exemple, en 1943, hein, l'armée rouge avance, donc le site va être repris par les soviétiques, les Allemands le savent. Et donc, il donne l'ordre d'exhumer les corps des fusillés. Donc, il y a toute une opération d'exhumation, etc. Et après, on les brûle pour ne laisser aucune trace. Ça, c'est systématique de la pensée nazie, c'est-à-dire de ne laisser aucune trace. Alors, parce qu'ils savent ce qu'ils font. Hein, même s'il n'y a pas d'acte officiel, écrit, etc., on va exterminer 6 millions de juifs, on a quand même des traces, on a un protocole de la conférence de Wannsee du 20 janvier 1942 qui décide de l'extermination de tous les juifs d'Europe, et qui évoque même, pour montrer le délire hein, à nos auditeurs, ils évoquent même l'extermination des juifs aux États-Unis, parce que les Allemands à l'époque sont en guerre depuis le mois de décembre 1941. Avec les États-Unis. Donc, ils évoquent comme ça, en mangeant des saucisses et en buvant du cognac, l'extermination également des Juifs américains. Donc ça, c'est quelque chose. Il faut aussi faire référence à la langue, parce que ça, c'est très intéressant. C'est un petit livre que je recommande souvent à mes étudiants. C'est LTI de Victor Kemplerer, donc qui est un Juif qui a survécu en Allemagne, qui a vécu en Allemagne pendant toute la guerre. Ça peut surprendre aussi nos auditeurs, mais il faut savoir qu'il était protégé, en quelque sorte, hein, par les lois de Nuremberg, parce qu'il était marié une arienne. Et donc, on ne pouvait pas le déporter, etc., parce qu'il était protégé par la loi nazie. Alors, c'est assez paradoxal. Et donc, bien sûr, sa vie sociale était absolument apocalyptique, parce qu'on lui interdisait d'avoir une radio, d'avoir une voiture, d'avoir un chat. Alors, si un jour vous lisez ses mémoires, c'est quand on apprend que les Juifs n'ont plus le droit d'avoir de chat, et il se passe une chose absolument qui nous fait sourire aujourd'hui, mais qui nous fait frémir en même temps. Mais il raconte, non, et donc il écrit pendant le nazisme, pendant le moment où il vit, caché, un peu caché, mais en ayant le droit d'être là, il écrit comment la langue allemande, comment les nazis, ont parasité, détourné la langue allemande. Je prends trois exemples. Le premier exemple, c'est la solution finale. Solution finale, quelqu'un qui lit un document sur dit Endlösung, donc la solution finale, ne comprend pas à quoi ça fait référence. D'ailleurs, pourtant, se cache la volonté d'exterminer des dizaines de millions de personnes. L'opération T4, qui est aussi une phase préparatoire à la solution finale, c'est l'extermination des malades mentaux, des handicapés. Quelqu'un qui lit un document marqué opération T4, hein, sinon ça va être Das Vierte Unternehmen, Unternehmen Nummer 4, en allemand, ne comprend pas de quoi il s'agit. Et ça rentre dans le quotidien, parce que, par exemple, on ne peut pas employer le mot retraite à partir de 1943, quand ça commence à les mains sur le front soviétique. Donc, on emploie le terme de Verkürzung, c'est-à-dire rétrécissement du front. Et quelqu'un qui entend à la radio « Tiens, le front a été rétréci », se dit finalement « C'est une bonne chose, le front est rétréci, donc ça prouve qu'il est plus... il est plus linéaire, donc ça montre qu'on gagne la guerre. » Et donc, il y a cette perversité de la langue et ce souci d'effacer toute trace. Donc, la trace, elle est d'abord sémantique, elle ne doit pas apparaître. Donc, on utilise des métaphores, des périphrases, et puis après, on ne filme pas, on ne doit pas prendre de photographies. Alors, il existe quelques photographies, mais il y a un vide, et surtout, on ne filme pas. Alors, peut-être qu'un jour, on retrouvera un film, hein, parce qu'ils ont... Il y a certainement eu, à un moment donné, un Allemand qui a eu la tentation de filmer. Mais ça, pour l'instant, on n'a jamais réussi à trouver un document filmé. Donc oui, c'est bien, effectivement, c'est la difficulté du travail de l'historien, de travailler sur quelque chose qui a existé, hein, il n'y a pas aucun doute là-dessus, mais comment rendre visible quelque chose dont on n'a pas de traces imagées. Ça, c'est véritablement une énorme difficulté et les cinéastes, en ce sens, permettent d'aider et de compléter le travail de l'historien.
Alors, le film Babillard Contexte a été à l'origine d'une polémique sur laquelle je voudrais ton avis. Le réalisateur Sergueï Ilonitsa a été accusé de faire le jeu de Moscou, alors qu'en plus le film démontre la falsification de l'histoire pratiquée par les Russes, donc ce qui est quand même assez étonnant comme accusation qu'il a balayé d'un revers de la main, parce que dans toutes ses interventions et puis tout ce qu'il fait plaide justement en sa faveur. Mais que penses-tu toi de cette polémique? Qu'est-ce qu'elle révèle, toi, l'historien, Johan, qu'est-ce qu'elle révèle, cette polémique de l'état de la société dans laquelle nous vivons?
Bah, déjà, une ignorance. Parce que malheureusement, même si aujourd'hui on dispose de plus de sources de savoir qu'il y a 30 ans, il y a 40 ans, l'ignorance est de plus en plus importante. Ça montre aussi une méconnaissance totale du travail de l'historien, et puis aussi une méconnaissance de l'histoire, parce que comme tu l'as dit, les soviétiques, dès 1945, ont voulu effacer les traces. Alors ils le font dans les années 50, hein. Il semble même qu'il y a une cité qui est construite dessus, il y a un viaduc ou un pont. Hein. Ça ne sera qu'en 2001, en fait, que les soviétiques vont... Enfin, c'est plus les soviétiques, d'ailleurs, ce sont les Russes, vont reconnaître hein, qu'il y a eu... Puis les Russes, d'ailleurs, c'est les Ukrainiens, parce que l'Union soviétique a été dissoute en 1991 et remplacée par la CEI. Donc c'est en 2001 qu'un mémorial est édifié à Babillard pour rappeler ce qui s'est passé. Donc c'est, pour moi, cette polémique, bon, alors, en plus, en période de guerre, donc les camps sont tranchés, les personnes qui essayent d'avoir un avis, comment dire, objectif, scientifique, puisqu'il existe des raisons, comment dire, qui n'ont pas qui justifient, hein, mais non pas qui expliquent, mais qui permettent de comprendre pourquoi Poutine a lancé son agression, ce n'est plus audible. Ce n'est plus audible. Et donc, voilà, moi, à mon avis, il y a ça aussi. C'est-à-dire que c'est un climat passionnel, un climat où, comment dire, une opinion scientifique ne peut pas être entendue si elle n'est pas du côté, comment dire, des agressés ukrainiens. Et donc, cette polémique auquel j'ai totalement passé à côté, pour moi, c'est vraiment la preuve d'une méconnaissance, d'une ignorance de l'histoire, du travail des historiens, de ce qui se passe, et là, en l'occurrence, du travail du cinéaste.
Alors, Johan Chanoir, tu es historien, tu es enseignant, il se trouve que je raconte pas ma vie aux auditeurs, mais je partage ma vie avec une enseignante en histoire également, voilà. Elle a été très gênée par le parti pris du metteur en scène, tout en reconnaissant la puissance des images, hein, de ne pas en fait, commenter les images. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un documentaire où il y a quelques cartons pour introduire les contextes, mais il y a aucun commentaire concernant les images. Il n'y a pas de voix off, il n'y a rien. Ce parti pris radical que moi je trouve justement très impressionnant, qu'en penses-tu, toi, en tant qu'historien ?
Alors moi, je pense que là, ce ne serait pas l'historien qui va te répondre, ce serait plutôt celui qui travaille sur le cinéma. Il faut se rappeler dans les conditions dans lesquelles est né le cinéma. C'est-à-dire le cinéma n'a jamais été muet, hein. Ça il faut le savoir, il a été mis en musique, il y avait des bonhumanteurs qui racontaient l'histoire ou qui expliquaient certaines scènes, il y avait des orchestres qui jouaient de la musique, etc. Donc le cinéma n'a jamais été muet, mais le cinéma des premiers temps est un spectacle. Donc dans le spectacle, c'est la force de l'image avant tout. Et on connaît tous Alfred Hitchcock, hein, Alfred Hitchcock qui s'appuyait sur l'image, et le dialogue, le verbe jouait un rôle périphérique. Hein, dans ce célèbre film « La mort aux trousses », on voit un avion qui pulvérise de l'insecticide là où il n'y a pas de culture. Donc on le voit, et à un moment donné, donc il y a deux personnages, dont Cary Grant, et le personnage qui attend son bus, qui monte en bus, il y a Cary Grant, pour bien appuyer sur la force de l'image, mais c'est bizarre, il pulvérise là où il n'y a pas de culture. Puis après, c'est la scène que l'on sait avec l'avion qui fonce sur Cary Grant. Donc il faut se rappeler que le cinéma, c'est d'abord l'image. Et moi, je trouve que c'est au contraire ce choix qui peut surprendre, hein, parce qu'on est aujourd'hui habitué à un flot de paroles incessants, etc., est au contraire très salvateur et montre une volonté de retrouver l'essence même du cinéma, à savoir la force de l'image pure.
Alors, Babillard Contexte est disponible chez Blackout, c'est un documentaire de Sergueï Ilonitsa, et il y a un autre documentaire qui est disponible chez Blackout, comment dire, Blackout, qui a donc une ligne éditoriale assez,
assez logique hein, sur le sujet, et qui vient en complément, je trouve, du coup, ce documentaire avec celui dont on vient de parler, qui s'appelle Mizraïm, les oubliés de la terre promise, qui est un documentaire de Michalet Bogani, mais qui est un documentaire, cette femme, elle fait un documentaire en fait qui lui est plus personnel, puisqu'elle repart en Israël pour évoquer le sort qui a été fait aux juifs orientaux, majoritairement aux juifs qui n'étaient pas ashkénazes, mais surtout aux juifs orientaux, qui ont été ghettoisés, qui ont été privés d'accès à l'école, à tel point d'ailleurs qu'on découvre dans le documentaire qu'ils ne construisaient pas d'école à partir de la sixième, ça n'existait pas, quoi. Les gamins ne pouvaient aller qu'en primaire. Y a même un truc qui est évoqué dans le documentaire, mais qui n'est pas, donc du coup je reste très, très vigilant là-dessus, mais qui n'est pas étayé de preuves, mais où des femmes racontent que leurs bébés ont été volés, hein, mais qui ce sont des choses qui, malheureusement, on sait qu'ils se sont pratiquées dans d'autres régimes. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette histoire de ceux qu'on appelle donc les Mizraïm, ces juifs orientaux, qui sont allés d'eux-mêmes, le cœur plein d'allant, vers la terre promise, et puis qui se sont retrouvés ghettoisés et qui ont vécu une vie quand même assez misérable, qui ont été maltraités en fait par l'État, l'État en quel ils nourrissaient beaucoup d'espoir.
Moi, je ne dirais pas qu'ils ont été ghettoisés, parce que c'est un terme un peu fort, qui a une très forte connotation hein, lorsqu'on parle du peuple juif et puis de l'État d'Israël. Donc je pense qu'il faut plutôt se référer à une sorte de discrimination. Alors, déjà rappeler, je vais un peu te contredire, tous les juifs orientaux ne sont pas venus, de plein cœur hein, dans l'État d'Israël. Hein. Moi, je pense par exemple à tous les juifs arabes, qui vivaient dans les pays arabes, ce qu'on appelait après les juifs orientaux, ils ont parfois été contraints d'aller en Israël parce qu'ils ont été chassés des pays où ils vivaient depuis plusieurs générations. Je pense par exemple aux juifs égyptiens. En 1956, il y a 25 000 juifs égyptiens qui sont chassés d'Égypte par Nasser. Et certains vont aux États-Unis, mais d'autres vont en Israël. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir hein, ce mouvement migratoire absolument colossal, parce qu'il y a des juifs orientaux, ça renvoie également, donc bien sûr, aux juifs d'Afrique du Nord, aux juifs de pays arabes, mais également aux juifs d'Inde, aux juifs d'Asie centrale, aux juifs du Caucase, etc. Donc c'est toute une communauté très diverse, très plurielle, qui a une langue, qui a des langues, des coutumes, une manière de vivre sa foi complètement différente des séfarades, des sabras, des askénazes, etc. Donc c'est pas un mouvement migratoire toujours spontané, volontaire, hein, dynamique. C'est un peu, bien sûr, toute proportion gardée, hein, c'est quand on raconte l'exil des pieds noirs en 62 en France, la plupart n'étaient jamais allés en France. C'est un pays qu'ils connaissaient par la géographie, il n'y a pas de télévision, peut-être un peu la radio, par la presse, etc. Mais pour eux, leur pays, c'était pas la France, c'était les trois départements en Algérie. Donc il faut aussi faire un peu attention à ceci, hein, c'est pas une dynamique migratoire spontanée, une volonté d'aller dans la terre promise, hein, comme porte d'ailleurs le titre de ce documentaire. Il y a aussi, hein, l'immigration sont malheureusement parfois un peu forcées. Alors oui, ils ont vécu, ils ont subi des discriminations absolument effroyables. Alors comment les expliquer ? Premièrement, déjà, il faut avoir en tête cette idée qui est fondamentale, c'est que la société israélienne est plurielle. C'est-à-dire qu'on trouve ce qu'on appelle les Sabras, des juifs qui sont nés en Palestine. On trouve ensuite les juifs qui sont arrivés après 1945 et qui, parce qu'ils ont justement, ils ne voulaient plus vivre de nouveau des pogroms, de l'antisémitisme. Et donc ils sont venus en Israël pour construire un État nouveau avec une idéologie nouvelle, très, très optimiste, hein, avec le kibbutz, par exemple, que tout le monde connaît. Et puis après, il y a toute l'histoire d'Israël, est faite hein, d'arrivées migratoires, hein, de populations d'origines diverses, qui partagent bien sûr tous, en commun le judaïsme, mais qui ont des histoires, qui ont des coutumes et des langages totalement différents. Et donc, il faut se souvenir qu'Israël est un jeune État. Et un jeune État doit quand même se construire. Il doit construire une société. Et pour construire une société, face à des groupes qui sont juifs et qui ont donc le droit d'émigrer en Israël sans souci, il faut les intégrer. Et l'intégration a pris ce qu'on appelle, nous, en histoire, hein, alors c'est de la manière dont l'autorité israélienne les la bâtisse, c'est la modernisation. Donc la modernisation, c'est un processus, hein, c'est un processus qui doit conduire à la modernité. Et la modernité, c'est pour un historien le rapport au temps présent. Donc c'est quoi le rapport au temps présent? Parce que ça, il faut bien comprendre ça, c'est fondamental. Le rapport au temps présent, c'est l'état d'Israël. Donc en fait, ce processus de modernisation, entre guillemets, c'est un processus d'israélisation. C'est-à-dire faire de toutes ces communautés très diverses, très différentes des juifs qui sont nés en Palestine, des Askenazes, donc des juifs qui viennent d'Europe centrale, orientale, d'Allemagne, des Séfarades qui viennent plutôt d'Afrique du Nord et d'Espagne à l'origine. Et donc il faut les passer au melting pot, hein, pour en faire de vrais citoyens israéliens. Alors ils ont été, sans peut le dire, hein, presque parqués, sans mauvais jeu de mots, d'abord dans les camps de transit, comme leur nom l'indique, ce sont des étapes transitoires. Et puis après, dans les zones urbaines de développement, on les a forcés à devenir agriculteurs, alors que la plupart étaient commerçants, artisans, donc ça n'a pas fonctionné. Et puis, donc après, on a essayé vraiment de les israéliser à marche forcée. Il y a eu des révoltes, hein, il y a eu une grande révolte à Haïfa en 1959, et puis il y a la révolte des Black Panthers, des Panthères noires, dans le documentaire, révolte d'ailleurs, à partir des années 71 jusqu'en 73, mais le mouvement de protestation, hein, qui demande l'isonomie, c'est-à-dire l'égalité de tous devant la loi de l'État hébreu, va durer à peu près 77-78 de mémoire. Et c'est seulement en 1997, hein, que l'État hébreu, hein, par la voix de son dirigeant, je crois que c'est Oud Barak à l'époque, hein, qui va demander un pardon par rapport au traitement discriminatoire, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, fait aux juifs orientaux. Alors, une note d'espoir, aujourd'hui ça va un peu mieux, il y a un indice, enfin il y a deux indices, si tu me permets Jérôme, qui montrent que ça va un peu mieux, mais on part de très loin, et il faut aussi en avoir conscience, c'est qu'il y a de plus en plus de mariages mixtes, c'est-à-dire entre des juifs orientaux et des juifs qui sont soit nés en Palestine, soit qui sont arrivés après 1948. Et puis, il y a des, on trouve des juifs orientaux maintenant à tous les niveaux de la société israélienne. Il y a des producteurs de cinéma, des producteurs de télévision, des stars, des hommes et des femmes politiques, des entrepreneurs. Donc, l'intégration est véritablement en train de se faire. Voilà un peu le contexte. Qu'il faut redonner un peu d'épaisseur historique au phénomène d'Israël.
Ah ben, merci pour toutes ces précisions, Johan. C'est, effectivement, hein, le terme ghettoisé, je l'employais entre guillemets. Hein. En fait, je rejoignais le parti pris, en fait, de la réalisatrice du documentaire, qui, elle, présente effectivement des juifs orientaux qui sont venus, c'est pour ça que tu as bien fait de préciser, qui sont venus vraiment plein d'allants, en fait, vers la Terre Sainte. Et parce que le point de vue du documentaire, c'est à la fois celui-là, de démontrer comment ils ont été maltraités et tout ça, mais c'est aussi, pour elle, de se rapprocher de son père, qui a été un militant historique de ces fameuses Black Panthers, dont moi j'ignorais, sincèrement, avant de voir le documentaire, jusqu'à l'existence. Je ne savais pas que le mouvement des Black Panthers s'était répercuté jusqu'en Israël.
C'est l'époque, hein, qui veut ça, parce qu'on trouve également, alors c'est pas les Black Panthers, mais on trouve également les mouvements, presque, enfin, terroristes qualifiés par la Turquie, mais par exemple c'est les Arméniens, hein, dans les années 70, et justement qui revendiquent, qui s'inspirent des Black Panthers aux États-Unis, puis tout ce mouvement d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les Black Panthers, hein, il y a également les Chicanos, hein, avec César Chavez, hein, qui réclament plus de droits, et puis également les Amérindiens, hein, on a complètement oublié aujourd'hui qu'il a existé une très très grande contestation de la part des Amérindiens aux États-Unis, qui s'inspirait également des Black Panthers, parce que c'est un mouvement de fond, hein, c'est un mouvement de fond, donc qui concerne toutes les minorités ethniques, et à un événement que tout le monde a oublié, mais qui est pourtant très révélateur, hein, les Amérindiens vont à un moment donné occuper l'îlot d'Alcatraz, dans la baie de San Francisco. Pourquoi? Bon, à l'époque, ils les affectaient, il n'y a plus de prisonniers, parce qu'en fait, pour eux, Alcatraz, c'est l'image même de ce qu'est une réserve, c'est-à-dire un endroit où il n'y a pas d'eau potable, il faut la faire venir, hein. C'est un jour où vous allez à Alcatraz, il faut venir, maintenant même si plus personne n'y vit, il faut tout faire venir du continent. Et donc, c'est véritablement, donc il n'y a rien n'y pousse, c'est désertique, c'est affreux, les conditions météo sont absolument apocalyptiques, etc. Et donc, pour les Amérindiens, qui les activistes donc indiens, c'était l'occasion de rappeler qu'Alcatraz, hein, bah, c'était l'image de ce qu'est une réserve indienne. Donc, c'est un mouvement de fond qui concerne toute l'Europe, qui concerne les États-Unis, mais qui concerne également Israël, parce qu'en fait, c'est une période de contestation. Et il faut aussi se rappeler que le point de départ, c'était 68, et 68, il y a des mouvements de contestation de la jeunesse politique dans le monde entier, y compris au Pakistan ou en Iran. Donc, c'est un phénomène de fond, et il n'y avait aucune raison pour que la société israélienne ne soit pas concernée par ce mouvement tellurique. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas du tout... qui n'est pas enseigné, il faut malheureusement l'avouer, qui à moins dans les grandes universités comme Sciences Po, le HESS, etc. Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, va surprendre les spectateurs, parce que c'est quelque chose... Et puis on ne s'attend pas aussi, hein, pour conclure, à la discrimination dans l'État d'Israël, un État qui s'est fondé sur le refus de la discrimination.
Oui, c'est vrai, c'est ça qui est le plus surprenant. Alors, toi qui as écrit la Shoah sur grand écran, entre représentation et trivialisation, ben là, on va passer à la partie de l'émission qui va se consacrer aux œuvres de fiction. Hein, on va, alors avant de basculer vraiment dans la trivialisation avec le travail de Canon, je voulais parler d'un troisième film qui est sorti quand je parlais d'une ligne éditoriale soutenue et très judicieuse. Un troisième film sorti chez Blackout qui s'appelle Evolution, qui est un film de Cornel Mundruszko. J'espère que je le prononce bien. Vous savez, c'était le réalisateur de White God et La Lune de Jupiter. Hein, La Lune de Jupiter, qui était un film assez métaphorique comme ça sur le destin des réfugiés, qui était un film très 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 intéressant, qui avait une belle part de poésie, avait même un côté fantastique qu'on va retrouver un peu dans ce Évolution, qui est divisé en trois époques. Le côté fantastique, on l'a surtout dans la première partie, où les hommes nettoient un camp de la mort, en fait, mais au début on le sait pas, donc on a l'impression qu'ils sortent. Après, en fait, la révélation est ignoble, donc je vais pas le dire pour les auditeurs qui n'auraient pas vu le film, parce que c'est 20 minutes absolument surprenantes, tournées en un seul plan séquence. Alors c'est un peu truqué numériquement, mais c'est quand même très beau, très esthétiquement, et c'est particulièrement ambitieux. Ces 20 premières minutes sont absolument passionnantes. On reste complètement scotché à son fauteuil en tant que spectateur, puisque ces hommes finissent par trouver un enfant là, comme ça, dans ce que malheureusement étaient des douches, hein, qui ont servi, où on a gazé, hein, voilà, des juifs. Et cet enfant est là, toujours vivant, et cet enfant va devenir une femme. Ça, c'est la deuxième partie du film. Une femme très âgée, là on la voit très âgée, qui a des relations compliquées avec sa propre fille, et qui refuse d'être honorée, de recevoir une médaille, parce que elle estime qu'à l'époque ces mêmes États les avaient abandonnés. Et la troisième partie du film, ça va être le petit-fils de cette rescapée des camps, qui est un adolescent, et qui subit toujours le fait d'être juif en Allemagne aujourd'hui. Alors, le film, moi, m'a laissé, je suis mitigé sur le film, parce que le film est d'un point de vue cinématographique, totalement brillant, mais il est aussi très lourd, très symbolique, très appuyé, en fait, dans ce qu'il démontre. Même s'il se termine sur une note d'espoir, je trouve, un peu lourd, la dernière partie, où cet enfant, en Allemagne, continue de subir l'antisémitisme, et je dis pas que ça n'existe pas, mais la manière dont c'est abordé, je trouve que c'est pas forcément très subtil. Donc c'est pas ce que je préfère dans le film. Moi, c'est vraiment les 20 premières minutes qui m'ont absolument bluffé. Alors les 20 premières minutes sont 20 premières minutes de très grand cinéma, hein. Ça justifie à elle seule la vision du film. Mais est-ce que tu penses, toi, Johann Chanoir, qui est historien, est-ce que tu penses, comme le réalisateur, comme Cornel Mundruszko, que être juif, parce que c'est vraiment ce que semble dire le film, être juif serait une malédiction?
Alors, c'est quelque chose qui, en fait, c'est un trope, hein, du cinéma israélien. Alors là, le film n'est pas israélien, mais en fait, dans le cinéma israélien, depuis la création de l'État d'Israël, se pose cette question. Alors, c'est surtout, hein, par rapport à la figure du déporté, du rescapé, etc. Et donc, il y a toute une série de films, hein, dès 1948, hein, jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, on pourrait chercher, hein, et qui évoquent le fait que être juif n'est pas forcément une malédiction, mais c'est plutôt pour moi être rescapé d'un centre de mise à mort industriel, on peut en être une. Hein, je vais prendre quelques exemples. Il y a, par exemple, dans un film de 1963 qui s'appelle La Cave, hein, Emmanuel, un rescapé, hein, un centre de mise à mort industrielle, qui n'arrive pas à sortir de l'obsession de se souvenir, de se rappeler de ce qu'il a vécu. Et donc, à un moment donné, il finit par vivre dans une cave, dont le titre du film. Et il y a une scène très très forte. À la fin du film, c'est qu'il sort de la cave, il va actionner une cloche, et à un moment donné, en ombre, on voit une potence. Donc en fait, c'est le message, il est clair. Le message, bien sûr, il est rescapé de la Shoah, mais il est toujours prisonnier. Et ça, c'est un trend, une tendance majeure du cinéma israélien. On le retrouve dans différentes productions, et ça transcende les barrières de genre, parce qu'il y a un film qui n'est pas sorti en France à ma connaissance, mais qui s'appelle The Wooded Gun, donc l'arme en bois, pourrait-on dire, en 1979. Et là, ça fait référence à un autre personnage emblématique du cinéma israélien, c'est la rescapée hystérique. Et donc c'est la femme, une femme palestina, donc, qui est rescapée, hein, qui vient vivre en Israël et qui subit les persécutions des enfants du quartier, qui sont tous des sabras, donc des enfants juifs nés en Palestine. Il lui lance des cailloux, donc qui a des crises de colère, etc. Et donc là, on a encore la figure de la rescapiste, de la rescapée, mais hystérique, qui n'arrive pas à s'intégrer dans la société israélienne. Et là, on retrouve un peu d'ailleurs le message, hein, du deuxième documentaire, dont tu as parlé. Et le plus beau film, si j'ose dire, parce que c'est un film qui est très très dur, et je vais vous en donner une séquence, en 1989, un film d'Eli Cohen, un film merveilleux, mais d'une brutalité visuelle absolument incroyable, c'est L'été d'Evia. Ça raconte justement une femme, pareil, survivante des camps de la mort, avec sa fille, des gros problèmes avec sa fille. À un moment donné, sa fille revient de l'école avec des poux. Et cette rescapée a bien sûr une phobie des poux. Hein. On sait que les Allemands, les nazis avaient une phobie des poux, etc. Et donc elle se demande, alors il y a un dialogue qui est très très célèbre, hein, pour les historiens, ça se demande si c'est une école ou c'est un camp de concentration, on comprend tout de suite l'analogie. Et l'analogie va être poursuivie par Eli Cohen, parce qu'à un moment donné, pour éviter la contamination par les poux, cette mère tombe sa fille. Donc on comprend tout de suite le message qui est derrière. Donc tout ça pour te dire qu'en fait, que cette image du rescapé qui n'est pas capable de s'intégrer dans la société israélienne, qui n'est pas capable d'oublier, en fait, c'est quelque chose qui existe depuis 1948. Hein. Moi, je pense que c'est un vieux film, on peut le revoir aujourd'hui, mais c'était un film de 1955, La colline 24 ne répond plus, et ça fait aussi référence à un rescapé. Et en fait, il y a une sorte de parallèle entre ce que vivent les Juifs sous le mandat britannique en Palestine, donc avant la création de l'État d'Israël, et ce qu'ils ont vécu en Europe pendant le nazisme. Mais le rescapé, en fait, n'a pas d'agency, n'a pas de capacité d'agir ou de réagir. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui traverse, hein, la société israélienne et qui traverse tout le cinéma israélien qui n'est qu'un miroir de société.
Le film Évolution, j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup le travail du réalisateur. J'avais aimé La Lune de Jupiter, qui fait référence à l'Europe, qui est l'un des noms d'une lune de Jupiter. Ici, il reste du coup en Europe pour continuer finalement sa filmographie. Tout le film est filmé avec plein de plans-séquences que je trouve intéressants, vu que généralement on mettait en parallèle le plan-séquence avec le documentaire. Il le fait, comme Jérôme tu l'as dit, sur trois générations. On a d'abord du coup la grand-mère, qu'on ne sait pas encore vu que l'introduction est onirique et vraiment incroyable. On a ensuite la confrontation avec sa fille au cœur d'une dispute générationnelle. La grand-mère, elle, essaye de cacher qu'elle était juive, notamment par rapport à la persécution que sa famille a subie, alors que sa fille, elle, essaye de montrer qu'elle est juive, justement parce qu'elle peut trouver une communauté et au final finalement trouver de l'entraide. C'est notamment dans une des phrases que dit la fille, nous étions juifs quand nous ne pouvions pas l'être, et maintenant que nous pouvons l'être, nous ne le sommes plus. Et on a ensuite affaire à la troisième génération, qui est le fils Jonas, que je trouve très intéressant, parce qu'il y a une complexité dans son intégration qui est très intéressante. C'est-à-dire que pour sa mère, les agressions qu'il subit, c'est de l'antisémitisme, et pour lui, c'est juste du harcèlement normal. Et je trouve que c'est un film qui questionne énormément. On a d'abord ce statut finalement de survivant, puis de fantôme, puis une affirmation. Et aujourd'hui, Jonas finalement reflèterait quelque chose d'autre. Et on retrouve de base ce que j'avais dit pour Babillard, c'est-à-dire ce côté absence, présence finalement de ce qu'on fait de cet héritage et à quel point il nous définit. Et donc ma question, Johan, ce serait, est-ce que c'est un portrait assez juste ou pas ?
Alors Je pense, vous avez effectivement que c'est un peu très, très, très juste. Alors, l'antisémitisme existe toujours, même malheureusement dans notre société française, existe en Allemagne et dans d'autres espaces, aux États-Unis, il a même pignon sur rue, parce qu'on peut acheter Mein Kampf sur Internet sans aucun souci. Et donc c'est un torchon antisémite d'une rare violence insoutenable. Donc l'antisémitisme existe et alors. C'est pas forcément un antisémitisme politique, un antisémitisme racial, ça repose sur des propos qui sont incohérents, mais par exemple les juifs sont tous riches, les juifs sont tous dans les médias, etc. On se souvient que Coluche avait fait un sketch là-dessus dans les années 70, hein. Donc c'est quelque chose qui est inscrit malheureusement dans un temps plutôt intermédiaire de nos sociétés. Donc je pense que oui, effectivement, ça existe, alors même si on peut trouver un peu, on va dire, le message, comme disait Jérôme, très souligné, mais c'est quand même quelque chose qui a une résonance, hein. C'est quelque chose qu'on ne peut pas évacuer dans la société postmoderne en disant voilà, l'antisémitisme s'est résolu, on n'en parle plus, c'est plus que les 3-4 abrutis qui rêvent d'un 4e Reich qui le professent. Non, il existe toujours de manière plus épidermique, plus cachée, parce qu'il y a des lois qui l'empêchent, heureusement. Et donc, je pense que c'est un portrait assez fidèle. Mais moi, ce qui m'intéresse, et je trouve que là, c'est très très intéressant dans ce que tu disais, c'est qu'effectivement, il y a trois plans séquences, il y a trois générations, mais il y a aussi trois géographies. La première géographie, bon, je ne vais pas spoiler, mais c'est dans un lieu qui est aujourd'hui intimement lié à la Shoah, donc je ne dirai pas lequel, mais on le découvre, comme a dit Jérôme, on le découvre après, on comprend après. Et c'est vrai que c'est un plan séquence d'une beauté absolument remarquable, même si ce qu'on y voit ne l'est absolument pas. La deuxième, c'est à Budapest, en Hongrie, donc dans l'Europe centrale, orientale, la Mittel-Europa, qui était vraiment le territoire où il y avait de très très fortes communautés juives, hein, qui ont pratiquement tous disparu à cause de la Shoah. Et le troisième, c'est en Allemagne. Et le fait que Jonas, si je me souviens bien, c'est lui, hein, trouve en fait une solution à antisémitisme, harcèlement, mais l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Ce qui est au cœur des deux phénomènes de l'antisémitisme et de l'harcèlement, c'est la différence. La différence par rapport à un groupe, par rapport à une communauté, alors soit une communauté qui existe, soit une communauté idéale, hein, celle du groupe classe, par exemple, celle du lycée, celle de l'établissement. Et donc, c'est toujours la différence qui est mise en accusation. Mais je trouve que le plus intéressant, c'est qu'il trouve une résilience, parce que la fin est assez intéressante, avec quelqu'un qui porte aussi une autre différence, et ça se passe en Allemagne. Donc, c'est un peu aussi... alors, on pourrait lire, hein, et ça, je pense qu'on peut le faire, qu'effectivement, insister sur l'antisémitisme en Allemagne aujourd'hui, ça peut surprendre. Mais moi, je vois surtout hein, le fait qu'on insiste sur que l'Allemagne est le lieu de la rédemption et de la résilience.
Ouais, on rappelle que les trois films, dont je vais redire le titre, Babillard Contexte de Sergueï Leonidza, Mizraïm, les oubliés de la Terre promise de Michalé Boganim et Évolution de Cornel Mundruxo sont disponibles chez Blackout. Alors, on va terminer, on n'a plus beaucoup de temps pour terminer cette émission, on va dire, sur l'aspect un peu plus trivial. Mon cher Johan, donc je rappelle, Johan Chenoir, tu as travaillé, hein, toi, en tant qu'historien, sur la question de la trivialisation. Entre représentation et trivialisation, donc la Shoah sur grand écran, tu as fait une étude en deux parties qui est parue dans la revue Historien et Géographe, et il se trouve que là, il y a une sortie, alors ça c'est, on change d'éditeur, c'est chez ESC, alors c'est peut-être pas le film le plus représentatif de ce que cette firme a produit, la Canon, il y a une sortie d'American Warrior, alors je vais en dire un petit mot d'American Warrior, puis après on va peut-être parler un peu plus de la Canon, et des hommes qui sont derrière la Canon, parce que je pense que là tu as pas mal de choses à nous dire. Alors American Warrior, c'est un film de Sam Firstenberg, c'est un film de 85, c'est un film qui met en vedette Michael Dudikoff, qui est en fait le ninja blanc, hein. Bon, il a perdu la mémoire, il est sur une base militaire, et puis il est confronté évidemment à des types pas très sympathiques qui attaquent un convoi militaire dont il fait partie, et là on découvre que c'est un combattant hors pair
qui est capable donc de battre, parce qu'ils sont attaqués par des ninjas, qui est capable de battre les ninjas parce qu'il a lui aussi la science des ninjas et il réussit à sauver la fille du général. Voilà. Mais comme d'autres soldats sont tués, il est un peu tenu pour responsable, il est mis à l'écart, mais il va réussir avec Steve James, qui est un autre militaire, à nouer une certaine amitié, donc l'amitié entre le blanc et le noir, entre le guerrier blanc et comment dire le militaire noir, et ils vont affronter donc les types peu recommandables qui s'en prennent à cette base militaire où a lieu un trafic d'armes, voilà. Et ce film, alors en dehors de l'angle politique, parce que tout ça on va en parler après, mais ce film là faut savoir qu'il a une suite, American Warrior 2, qui est sorti chez The Ecstasy of Film, qui est encore plus fun et barré que le premier, mais moi, je trouve que c'est des films qui jouissent plutôt d'une mauvaise réputation. Et que, en fait, c'est pas du tout ce que la Canon a produit de pire, c'est American Ninja. Que Sam Firstenberg, à l'image d'un Joseph Zito, est plutôt un bon metteur en scène, même si c'est pas des gens qui apportent une plus-value, comment dire, d'un point de vue sur le fond du film, mais sur la forme, il y a une vraie plus-value quand on voit les films de Zito, quand on voit les films de Firstenberg. Et le film de Firstenberg, je trouve plutôt bien mis en scène. Alors, bon, il y a les limites du jeu d'acteur de Dudikoff, mais qui est pas non plus la grande catastrophe, voilà, qui est quand même un acteur plutôt sympathique, ça y passe bien à l'écran. Le look des ninjas, bon, fait qu'on a souvent classé ce film dans les nanars. Bon, j'ai vu bien pire, très sérieusement, et je trouve que le film est plutôt assez efficace et plutôt bien relevé en action. Pour moi, c'est le haut du panier de la Canon en termes de films d'action. C'est parmi ce qu'ils ont fait de mieux, avec de belles idées de mise en scène, comme des bagarres hors champ, des bagarres en ombre chinoise. Enfin, il y a une vraie volonté d'avoir une mise en scène plus travaillée pour ce film. Mais je crois, toi, que donc un film que je recommande vivement, une très bonne série B d'action typique des années 80, du milieu des années 80, mais je crois que toi, tu voulais revenir plutôt, Johan, sur la firme qui est derrière, en fait, cette production, c'est la firme, la Canon qui est l'œuvre de deux cousins, hein, Menahem Golan et Yoran Globus, et en particulier, parce qu'ils se sont fait connaître via un film qui a eu un très fort retentissement à la fin des années 70, en 77, qui était Opération Thunderbolt, et qu'ils ont aussi produit un téléfilm qui est sorti la même année, un téléfilm d'Irvine Keschner, le réalisateur d'Empire Contre-Attaque, qui s'appelle Red sur NTB. Ces deux films qui, je crois, t'intéressent au plus haut point.
Alors, tout à fait, parce que ces deux films, en fait, qui évoquent, surtout d'ailleurs Red sur MTB, qui évoquent la Shoah. Alors, vous allez me dire, ça n'a strictement rien à voir. Hein. Pour nos éditeurs, ça rappelle, en fait, le détournement d'un avion d'Air France, d'Athènes, hein, et puis qui va être, l'avion va être détourné par des terroristes de la palestinien et puis de la Rote Armée Fraction, de la Fraction Armée Rouge. Ça se passe le 3 et 4 juillet 1976, de mémoire. Et puis, donc, ils vont atterrir en Ouganda, en TB, et l'armée israélienne va décider, après beaucoup d'hésitations, à lancer une opération de sauvetage, donc, par des troupes entraînées, pas les commandos, mais bon, vraiment des parachutistes, me semble-t-il. Et c'est une histoire vraie, hein, il y a eu un mort, le mort, d'ailleurs, est le fils d'un très grand politique israélien. Et donc c'est quelque chose qui a marqué les esprits en Israël, l'événement, et puis les films, parce que tout de suite, hein, le cinéma, dès l'année suivante, hein, s'est emparé de ce haut fait d'armes de l'armée israélienne. C'est aussi une manière un petit peu de diplomatie publique, hein, de montrer que si quelqu'un touche à des citoyens israéliens, où qu'il soit, il sera châtié, ce que fait un peu d'ailleurs aujourd'hui le cinéma chinois avec ses films d'action. Mais pourquoi moi il m'intéresse ? Bon, moi je suis un mauvais téléspectateur, j'adore les films de la Canon, hein, j'adore les films avec Charles Bronson, dont on a déjà parlé, Je rentre, tout c'est bien, Justice dans la ville, Justice de minuit. J'adore ces films totalement décomplexés, American Warrior, comme tu dis, même si c'est des choses qui sont, parfois un peu légères. Ils ont quand même produit de très grands films. Moi, je parle du film de 85, Runaway Train, hein, qui est un film absolument superbe, hein, sur un prisonnier qui se sauve d'un pénitencier de très haute sécurité sur un train. C'est vraiment, pour moi, un des chefs-d'œuvre, un des plus grands films de cinéma. Ils ont produit également Highlander, hein, qu'on connaît bien, etc. Après, ils ont produit plein de choses. Mais alors, ce film, ces deux films, surtout l'autre, le Red sur Rome TV, m'intéresse parce qu'à un moment donné, et ça, c'est pareil consubstantiel à ce que fait le cinéma israélien, c'est que de montrer en fait que l'État d'Israël, c'est vraiment le seul refuge contre la Shoah d'hier et la future Shoah de demain. Parce qu'à un moment donné, il y a une scène dans l'avion qui est extraordinaire, dans Red sur Rome TV, donc il y a une terroriste hein, allemande qui. Laisse les passagers, donc les passagers israéliens ou juifs, d'aller aux toilettes. Et à un moment donné, elle crie schnell, schnell, comme si c'était une SS dans le lager, un camp de concentration, une centre de mise à mort industrielle. Et à un moment donné, il y a un homme qui veut aller aux toilettes et on découvre par un peu un plan sur son poignet qu'il a un tatouage, un numéro qui est tatoué, donc c'est bien sûr un rescapé. Et il est complètement saisi par les cris de ce terroriste et qui insiste en plus. Et à un moment donné, cette terroriste voit le tatouage, comprend qu'il a survécu au camp nazi, et donc on pourrait s'attendre en fait qu'une terroriste d'extrême gauche qui a horreur du nazisme manifeste un peu d'empathie, mais non, pas du tout, elle continue de crier, etc. Et le message politique, il est très clair, c'est qu'en fait, ce que font vivre les Palestiniens et terroristes allemands de la fraction armée rouge, c'est la même chose qu'ont fait vivre les nazis aux juifs entre 1939 et 1945. Donc en fait, ce sont des films qu'on peut trouver légers. Moi, je trouve que Red sur NTB, c'est un bon film d'action. Il y a un casting extraordinaire. Mais c'est aussi un film politique. Et on est vraiment là dans la trivialisation de la Shoah. Et il y a des tas de films, alors même qui n'ont rien à voir en apparence, mais qui insistent sur le tatouage. Le tatouage, c'est véritablement un des signes de la Shoah qui rentrait dans la culture populaire. Ce qu'on appelle, nous, en tant qu'historien, c'est la trivialisation. Et ce film, il participe avec un message politique, un message d'ailleurs qui est porté par l'État d'Israël. Et Opération Thunderbolt, c'est pareil, c'est un très bon film d'action aussi, c'est bien filmé, c'est bien cadré, il y a un message politique derrière, mais il m'intéresse aussi en ce sens, c'est parce que le cinéma n'est pas qu'une œuvre de divertissement pour nous faire plaisir, c'est aussi une œuvre qui nous invite à réfléchir.